Le petit Johannes, chapitre 7. L'aube était glacée et morne. Dans le brouillard, les branches noires et luisantes, défeuillées par les rafales, s'égouttaient. Johannes, à croire qu'il avait un but, courait à travers l'herbe mouillée et couchée par le vent, droit devant lui, du côté où le bois s'éclaircissait. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, ses traits figés d'angoisse et de douleur. C'est ainsi qu'il courut toute la nuit à la recherche de la lumière. Le sentiment d'aise qui lui était coutumier auprès de Liseron avait disparu. De tous les coins de l'ombre surgissaient les fantômes de l'abandon et il n'osait tourner la tête. Enfin, il atteignit la lisière. Devant lui s'étendait une prairie. Une pluie fine et pénétrante tombait lentement. À côté d'un sol étêté, un cheval était debout, la tête basse. L'eau découlait de ses flancs et trempait sa crinière. Johannes continua à longer le bois. Il regardait avec des yeux mornes et anxieux le cheval abandonné et le ciel gris. « Tout est fini, » gémit-il. « Jamais plus le soleil ne doit luire. J'ai devant moi l'image de ce que sera désormais ma vie. » Dans son désespoir, il n'osait s'arrêter appréhendant qu'un plus grand malheur ne survint. Enfin, il aperçut une grille et un parc. Une petite maison s'y abritait sous des tilleuls, au feuillage d'un jaune pâle. Johannes franchit la porte et parcourut de larges avenues où des feuilles, brunes et jaunes, couvraient le sol d'une couche épaisse. Le long des pelouses, des rames marguerites et d'autres plantes d'automne poussaient en mêlant leurs fleurs. Près d'un étang s'élevait une grande demeure avec des fenêtres basses et des portes de verre. Tout était morne et délaissé. Des châtaigniers à demi dépouillés se dressaient, immobiles, et le sol, entre les feuilles mortes, était jonché de châtaignes rondes et polies. Peu à peu, Johannes sentit son angoisse et son deuil le quitter. Il se souvint de sa propre maison, elle aussi ombragée de châtaigniers dont, en cette saison, il ramassait le fruit sauvage. Une tendre langueur le pénétra comme si en lui avait retenti l'appel d'une voix familière. Il s'assit sur un banc et pleura doucement sur lui-même. Une odeur de tabac lui fit lever le front. Devant lui, un homme en long tablier blanc était debout, la pipe à la bouche. À sa ceinture pendaient des lanières coupées dans de l'écorce de tilleul et servant à lier les espaliers. Johannes se rappela le jardinier de son père qui, autrefois, lui cherchait de belles chenilles et lui dénichait des œufs de sansonnette. Bien qu'en présence d'un homme, Johannes n'eut point peur. Il lui conta qu'il s'était égaré. Le jardinier l'amena avec lui dans la petite maison près des tilleuls jaunis. Dans la chambre, la femme du jardinier tricotait des bas noirs. Au-dessus d'un feu de tourbe, sous la cheminée, un gros coquemar cuisait. Sur un paillasson, tout proche, un chat sommeillait, les pattes croisées, dans la même attitude que Simon, quand Johannes avait quitté son logis. On assit l'enfant devant l'âtre pour qu'il séchât ses pieds mouillés. Tic-tac, tic-tac, répétait la vieille horloge accrochée au mur. Il considérait tantôt la buée qui, en chantonnant, montait de la bouloire, tantôt les flammettes dansant autour de la tourbe le ronde aux mille détours imprévus. « Me revoici parmi les hommes, » pensa-t-il. Il n'y trouvait rien de désagréable. Son esprit était calme et indifférent. Ses hôtes, bons et affables, lui demandèrent ce qu'il comptait faire. « J'aimerais surtout, » dit-il, « ne pas vous quitter. » En effet, il goûtait près d'eux le repos, tandis que, chez lui, l'attendait du chagrin et des larmes. Il ne pourrait rien dire. On lui reprochera de s'être mal conduit, et sans cesse, l'image du passé le tourmentera. Il est vrai que sa petite chambre, son père, Prasto, lui manquait fort. mais il préférait les regretter que d'affronter les amertumes d'un retour au logis. Là, il ne pourrait guère penser à Liseron. Ici bien. Liseron était parti sans doute pour les îles lointaines qui balancent leurs palmes au-dessus des eaux ensoleillées. Johannes forma le propos d'expier cette heure en attendant que revînt son compagnon. Et c'est pourquoi il conjura les bons gens de le garder, promettant d'être docile et de les aider à soigner leurs fleurs et leurs plantes. Ce ne sera que pour cet hiver car, en secret, il comptait revoir Liseron au printemps. Le jardinier et sa femme se figuraient que les mauvais traitements d'une marâtre avaient fait fuir Johannes, et dans leur pitié, ils lui accordèrent de demeurer auprès d'eux. On lui donna une chambrette avec une alcôve dont les planches étaient peintes en bleu. De son lit, il voyait les feuilles mouillées du tilleul frôler ses vitres, et la nuit, les étoiles jouaient à cache-cache derrière les branches noires remuées par le vent. Maintenant, il donnait des noms aux astres, et le plus éclatant s'appela Liseron. Dans les serres humides et étouffantes, les palmiers et les fougères éployaient leur feuillage, auquel se suspendaient des grappes d'orchidées. Johannes considéra leur beau calice en s'attendant à y voir apparaître Liseron. Au dehors, toute chose lui apparaissait terne et glacée. Sous les arbres, dont les branches grinçaient dans le vent et dégouttaient de pluie, s'étalait un vaste tapis de neige souillée. Seulement, quand les flocons étaient tombés des heures durant, accablant les tiges sous leur pesant duvet, Johannes s'aventurait avec joie dans l'ombre violâtre de la forêt enneigée. C'était le silence qui y dominait, et non la mort. Les branches, traçant leurs filigranes sur le ciel, et d'où parfois la neige trop lourde se détachait et tombait comme une poussière étincelante, formaient une féerie dont le charme surpassait les splendeurs de l'été. Un jour, s'étant hasardé dans le bois jusqu'à ne plus voir, sur la terre et les branches noires ourlées de blanc, qu'une épaisse hermine où s'étouffait tout bruit, il crut apercevoir un petit animal blanc et d'aspect inconnu qui courait devant lui et qui, au geste de Johannes pour le saisir, se réfugia dans la fente d'un arbre. Johannes plongea le regard dans le creux en se demandant « Serait-ce peut-être Vistik ?» Il ne songeait plus guère au gnome. Cette pensée lui paraissait condamnable et, en outre, il ne s'accordait pas le moindre adoucissement à la pain qu'il s'était imposé. D'ailleurs, la vie qu'il menait auprès des deux bons gens n'était pas de nature à le divertir, ni à émouvoir son esprit. Le soir, il est vrai, il était obligé de lire dans la Bible. On y parlait sans cesse de Dieu, mais on lui avait autrefois tant ressassé ce livre qu'il en annonnait les versets sans même savoir ce qui y était dit. La nuit qui suivit sa promenade, il demeurait éveillé dans son alcôve et fixait des yeux le reflet glacé de la lune sur le plancher, quand il vit soudain de petites mains qui saisissaient le bois du lit, puis, entre ses mains, apparut une toque de fourrure, et deux yeux graves se montrèrent, au-dessus desquels s'arquaient de hauts sourcils. « Bonsoir, Johannes, » dit Vistik. « Je venais vous rappeler notre rendez-vous. Il ne se peut pas que vous ayez déjà trouvé le livre, car le printemps est un cœur loin. Mais y songez-vous toujours ? Qu'était-ce pour un livre dans lequel je vous ai vu lire ? Il est impossible que ce soit celui que nous cherchons. » « Je suis également éloigné de le croire, Vistik, » répondit Johannes en se retournant pour dormir. Mais le souvenir de la petite clé d'heure continua à le tracasser, et chaque fois que, par la suite, il lisait dans la Bible, il se persuadait que ce n'était pas là le vrai livre.